Donc nous voilà sur donc une séance sur le salut. Donc c'est vrai que c'est normalement bonsoir, un programme normalement un peu réjouissant. Donc parce qu'en fait, il y a un secret quand même. Hein. C'est que la bonne nouvelle de l'Évangile, c'est grosso modo, pour dire vite, c'est quand même que le salut nous est donné. Donc normalement, on peut rentrer chez nous en fait. C'est relativement, relativement clair, relativement simple.
Nous, on le loue, en fait.
Ah oui?
Bah oui, dimanche après dimanche, en fait, il y a une sorte de mise à disposition.
Pour une semaine.
C'est ça.
Voilà, c'est ça.
Non, je veux dire, on le loue, on rend grâce.
Ah, le loue, on rend grâce, ah oui.
Non, c'est plus rentable de louer que de vendre.
C'est en leasing. Alors la question, c'est sauver de quoi, sauver comment? Ça, c'est un beaucoup plus délicat en fait. Surtout que bon, le concept a pu évoluer. Alors il a évolué au cours de la Bible et il a encore plus évolué, je pense, dans la théologie, deuxième partie qu'on verra avec James. Donc pour vous rendre compte un petit peu de ça, je vous ai proposé toute une série de textes. Il y en a donc deux pages. Ça s'ouvre généreusement parce que. Je me suis dit que c'était plus facile de voir ça d'une manière un peu synoptique, voir un peu tout. Bonsoir. Il faudra aller attraper des feuilles en passant parce qu'elles sont déjà passées. Donc, comme introduction, je vous ai mis en fait le psaume 103. Bon, alors, si vous voulez, c'est très subjectif parce que, je dirais, la Bible ne parle que de ça, grosso modo, du salut. Donc, moi, je vous ai pris un psaume parce que j'aime bien les psaumes, j'aime bien celui-là en particulier, tellement que je l'utilise à chaque fois pour rendre grâce après la Sainte Cène, vous avez remarqué. Mais il y a un petit résumé de ce qu'apporte le salut. Effectivement, comme James, le psalmiste loue l'Éternel, et il loue l'Éternel pour ce que Dieu apporte comme salut à son existence. Même si effectivement il n'y a pas le mot « sauver »,« salut », mais c'est bien de ça dont on parle. Donc « mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, c'est lui qui guérit toutes tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse et te fait rajeunir comme l'aigle. Alors il y a d'abord le pardon, c'est une des dimensions du salut, c'est l'idée d'effacer l'ardoise, c'est un pardon juridique finalement. Ça donne le droit d'exister, voilà, le droit d'être libre aussi. Donc ça, c'est le propre, finalement, du roi, en particulier la grâce. La grâce, le propre de la grâce, qui est un des vecteurs du salut, la grâce de Dieu, eh bien, c'est le roi, par exemple, qui gracie son fidèle, son sujet. Ça existe même encore, c'est un reste de féodalité dans la loi française. Le président de la République peut gracier quelqu'un. Ça ne rend pas innocent le coupable, simplement, sa peine est levée. Et donc ça, voilà, le pardon, c'est une première dimension du salut. Et c'est lui, et lui seul, mais on va le voir tout le temps finalement, c'est lui qui est la source du salut, la source de ce pardon. Ensuite, guérit toutes les maladies, donc c'est plus curatif, mais pas sur le domaine juridique, c'est plutôt pour augmenter la capacité finalement, la capacité à agir. Donc ça aussi, on le retrouvera beaucoup dans l'Évangile, Jésus-Christ comme guérisseur. Alors, guérisseur physique, ça le gêne un peu, mais il dit, voilà, c'est normal que j'aille vers les pécheurs, puisque c'est les malades qui ont besoin de médecins. Le médecin, il ne va pas dire, écoutez, vous ne méritez pas d'être soigné parce que vous êtes trop malade. Au contraire, quelqu'un qui est très malade, il mérite deux fois plus d'être soigné, le pauvre. Et donc, c'est un peu l'idée du principe du truc. Donc, le premier, c'est le pardon, c'est le droit, finalement, au médecin... d'avoir le droit à la médecine, ce qui n'est pas une évidence pour tout le monde partout. Faut avoir, je me souviens une fois, je m'étais blessé à la main, si vous voulez, en faisant de la construction. J'arrive, je saignais comme tout, j'avais peur d'avoir coupé des tendons, si vous voulez. J'arrive à l'hôpital de Saint-Jean-de-Maurienne, il me dit, votre carte vitale, alors avec l'autre main, j'essaye de l'attraper, et votre carte de mutuelle. Ah oui, alors voilà, c'est ça. Donc ça, c'est le premier, c'est le pardon, vous voyez, c'est... on a le droit d'être soigné. Après, on est soigné. Alors, troisièmement, c'est délivre ta vie de la fosse. Alors, nous, on est content parce qu'on se dit que ça nous parle de la vie future, de la vie éternelle. Pas simplement la vie future dans l'au-delà, mais la vie éternelle maintenant, comme on le répète sans arrêt. Et donc ça, vous voyez, c'est un peu plus que... un peu plus que la guérison. C'est, ça donne, en situation, ça peut donner vraiment une liberté d'être. Parce que finalement, la fosse, j'ai mis piège entre parenthèses, c'est pas simplement la, arrache ma vie à la tombe. C'est peut-être aussi, mais c'est les pièges. C'est des choses mauvaises qui m'environnent et qui m'empêchent d'être libre. Donc les trois premiers, finalement, là, ces trois premières dimensions, à mon avis, ça exprime déjà pas mal ce qu'on entend par salut dans la Bible, en fait. C'est assez général, donc un pardon juridique, un pardon un peu curatif pour guérir, et puis un pardon délivrance qui ouvre à une vie nouvelle. Alors après, ça explique peut-être plus comment c'est fait, je pense, hein. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. Alors on pense à une couronne qu'on pose sur la tête. En fait, c'est plutôt l'idée d'être enveloppé, environné, entouré. Et ça, c'est une idée qui est très fréquente de ce Dieu qui est là pour garder, pour accompagner. Alors la bonté et la miséricorde, la bonté, en fait, c'est recède, c'est la grâce, c'est ce qui pardonne. Mais la grâce, ça marche aussi pour la grâce de quelqu'un qui est peut-être pas beau, mais qui est charmant, qui est plein de grâce. Hein. C'est-à-dire, c'est pas forcément au mérite, c'est quelque chose d'impalpable qui fait que... Donc c'est la bienveillance, c'est la bienfaisance de Dieu, et ça c'est fréquent. Puis la miséricorde, c'est raham, c'est plus l'amour maternel, l'amour matriciel, dirait Chouraki. C'est l'amour, c'est le même mot que l'utérus, donc c'est l'amour d'abord de la mère pour son enfant. Donc ça veut dire que cet amour de Dieu, il n'est pas dû à la grâce, parce que la grâce, ça fait toujours peur. On se dit, le président, il décide de gracier, mais il pourrait aussi bien, c'est à la tête du client, quoi. Donc c'est toujours un peu, c'est pas fiable. Alors que normalement, cet amour raham de la mère, c'est la maman tigre, elle défend son tigron, je sais pas comment on dit un tigron, mais peut-être. Elle défend son bébé tigre, parce que c'est viscéral, c'est parce que c'est sa nature. Donc c'est ça, c'est comme ça, finalement. Ça, c'est la nature de Dieu. Et puis c'est aussi peut-être cet amour raham qui est matriciel au sens cet amour qui nous façonne, qui nous crée, qui nous engendre comme vraiment vivant. Donc ça c'est le premier point, première aide, une aide extérieure finalement. Donc ça exprime bien que le salut ça vient vraiment de Dieu, c'est une aide extérieure. Ensuite, rassasie de bien ta vieillesse, c'est plus l'idée de nourrir. Alors la vieillesse, ou bien ça peut être les ornements, la beauté, en fait, je ne sais pas très bien, c'est un peu, un peu complexe. Enfin bref, c'est le Dieu qui nous nourrit de l'intérieur, donc ça nourrit un dynamisme intérieur qui nous rend plus fort, plus vivant, et ça, c'est aussi une dimension peut-être, qui va peut-être avec le curatif, la guérison, mais c'est l'idée d'un Dieu qui poursuit sa création en nous nourrissant. Et puis rajeunir comme l'aigle. Je ne sais pas d'où vient cette légende que l'aigle, il rajeunit. Aucune idée. En tout cas, c'est ce qu'on dit. Hein. D'ailleurs, il y a un verset de l'Évangile, « Là où sont les corps, là s'assembleront les aigles. » Alors la TOB, la traduction œcuménique, il se veut toujours plus intelligente. Il se dit « Ouais, non, mais en fait, là, l'auteur de l'Évangile, il s'est trompé, en fait. » Parce que les aigles, ils ne vont jamais sur les cadavres. Hein. Donc, il voulait dire, il s'est trompé, il ne sait pas bien le grec, ils ont mis là où sont les cadavres, là où sont les corps, là s'assembleront les vautours. Ben non, c'est l'aigle, c'est celui qui a une deuxième vie, qui rajeunit, et donc là où sont les personnes, je veux dire, mortes, ben oui, là, il y a une nouveauté de vie en Dieu, en Christ qui est donnée. Donc, c'est un peu l'idée, et ça aussi, ça va avec le délivré, les délivrés de la fosse, délivrés du piège. C'est l'idée de délivrer même du temps, délivrer de peut-être de la fatigue de notre être, de l'angoisse, de tout ce qui ne va pas pour pouvoir être dans une nouveauté de vie. Alors finalement, ça montre bien, je trouve, ce petit bout de psaume, ça montre bien l'étendue du concept du salut qui est donné finalement. Et ce n'est pas simplement, vous voyez, sauver... comme on pourrait le penser parfois, spécialement dans certaines églises chrétiennes, un salut pour effacer l'ardoise des péchés, effacer la culpabilité, mais c'est beaucoup plus large que ça. C'est ça, mais c'est plus large que ça. Et alors ce concept, il va apparaître en particulier beaucoup dans l'Exode, bien sûr, dans la Pâque, qui est l'archétype de Dieu comme source de salut, un salut qui est donc une libération, un cheminement jusqu'à la terre promise, plus qu'une... Et donc, c'est pour ça qu'il y a la célébration de la Pâque sans arrêt. C'est pour ça, donc là, j'ai mis Exode 20, c'est le début du décalogue, donc des 10 paroles. La première des 10 paroles, c'est de la théologie pure, qui dit « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir », donc avec Yatsak, qui est un des gros verbes les plus courants autour du salut, du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et donc, ça exprime vraiment cette idée donc, d'un Dieu sauveur, et puis d'un salut qui est complètement dû à Dieu. C'est-à-dire que voilà, il y a l'idée qu'ils étaient complètement esclaves, donc incapables de se libérer par eux-mêmes, incapables de rien, juste avec des gémissements. Dieu entend les gémissements. Ça, c'est la fin d'Exode 2 et puis Exode 3. Et puis, il intervient pour cette libération qui est vraiment sans la force des Hébreux, mais par la force, uniquement la force de Dieu. Alors vous pouvez m'interrompre hein, si vous ne suivez pas ou s'il y a des remarques. Hein. Alors celui qui fait le salut, là, vous voyez, c'est l'Éternel, ton Dieu. Alors l'Éternel, c'est plus la source de pardon, d'accompagnement, de bonté, de grâce. Et puis Dieu, c'est plus le Dieu fort, le Dieu créateur qui peut-être peut détruire le mal, la méchanceté du Pharaon, éliminer la maladie et puis aussi créer de la nouveauté de vie. Voilà. Alors, ça sauve donc des mauvaises conditions, par extension, bon, ça peut sauver, c'est vrai, du mal moral. Alors là, si vous voulez, c'est globalement, bon, il y a l'idée quand même d'un salut qui est quand même très concret, pas simplement le salut dans la foi. Salut spirituel, le salut d'être libre dans sa tête. Il y a vraiment l'idée dans ces textes d'un salut très concret pour donner à vivre en ce monde. En parallèle, il y a une lecture allégorique qui est faite de cette libération, bien entendu, qui est aussi une libération plus existentielle, morale, spirituelle. Et on le voit dans la suite du décalogue. Dans la suite du décalogue, ça décline un peu dans la première table vraiment une saine relation avec Dieu, et puis ensuite c'est une saine relation avec les autres, pas trop tuer son prochain, et donc il y a cette libération qui est quand même, et libérer d'Égypte pour aller vers un pays, vers une terre, vers une vie vivable, d'accord. Le deuxième c'est libérer pour être dans une juste relation avec Dieu, juste relation avec les autres, l'idée de paix avec Dieu, avec les autres. Mais aussi pour le dernier des 10 paroles, tu ne convoiteras pas. C'est une libération par rapport à soi-même, si vous voulez. Parce que quelque chose qui ne tourne pas rond à l'intérieur de nous, qui est la jalousie, qui est la cupidité, qui est peut-être la convoitise, la jalousie, le machin, etc. Tout ça qui nous pourrit la vie et qui fait que notre vie a du mal à s'inscrire dans une vie bonne, quoi. Et donc il y a cette libération-là aussi qui est comprise, si vous voulez, dans cette libération. Alors bien entendu, dans le Nouveau Testament, avec Jésus-Christ, c'est quand même plutôt dans ce domaine-là que ça va s'inscrire, le salut. Ça va s'inscrire plus dans cette partie spirituelle, éthique, créative, j'allais dire, et puis aussi existentielle, dans une paix intérieure par rapport à soi-même. C'est surtout là-dessus qu'on va insister. Sur l'idée d'être en forme dans ce monde, manifestement Jésus n'est pas contre parce qu'il guérit des gens, mais ça a l'air un petit peu malgré lui finalement. Il dit, mais non, ça vient parasiter un peu mon message, donc n'en parlez pas trop, etc. Parce que finalement, bon, je pense qu'on est appelé, oui, quand même, à soulager les maux, M-A-U-X, la peine des hommes et des femmes, bien entendu. Y compris très physique, par la médecine, par la solidarité. Mais Jésus se concentrait, à mon avis, plus sur le deuxième sorte de salut, qui est la clé d'un salut plus matériel, plus concret, qui est compris, à mon avis, beaucoup plus... C'est peut-être plus la vocation de Jésus qui est concentrée plus sur le spirituel, l'existentiel et le moral, avec la clé de tout... la paix, le salut spirituel, d'accord, qui produit des fruits ensuite, si vous voulez, dans les autres dimensions de l'être. Donc ce n'est pas que Jésus néglige, à mon avis, le salut en ce monde, mais ce n'est peut-être pas dans sa stratégie, je dirais plutôt. C'est plutôt pas dans sa stratégie. Mais c'est discuté. Et dans la notion de salut, c'est justement ce qui fait peut-être problème entre les différentes personnes qui se disent « Mais est-ce que Jésus est le Messie ou pas le Messie? Est-ce qu'il est le Sauveur ou non ?» Parce qu'il y en a qui attendaient... Bonsoir. Il y en a qui attendaient, bien sûr, un Messie très, très politique, très matériel. Alors du coup, ils ont cette notion de salut qui est complètement centrée là-dessus et qui leur semble, au contraire, la clé de tout le reste de salut. D'abord, on met la paix politique, on rétablit les religieux au pouvoir, et après, ben, le reste va s'en découler. La stratégie de Jésus, les priorités de Jésus qu'il nous propose pour nous aussi, finalement, sont différentes, sont à rebrousse-poil. C'est d'abord de rétablir une juste relation avec Dieu, donc il purifie le temple. Ma maison sera une maison de prière, vous en avez fait une caverne de voleurs, dit Jésus, et c'est ça l'acte qu'il pose pour montrer qu'il est roi, si vous voulez. Donc il est source de salut. Donc effectivement, si vous voulez, je crois que c'est plus la question d'une question de priorité, de stratégie, de construction progressive du salut. C'est plus ça qui est en cause, plus que réellement un mépris du salut, j'allais dire, de la vie par rapport à la vie en ce monde, par rapport au simple bonheur dans notre corps, dans notre société, dans notre justice sociale aussi. Je pense que c'est plutôt quelque chose comme ça. Mais vous pouvez très bien ne pas être, bien sûr, d'accord avec ça. Alors l'Exode, je vous l'ai remis là parce qu'il y a un peu tous les mots qui traînent, un certain nombre de mots qui traînent en hébreu qui peuvent éventuellement servir. Bon, c'est aussi pour faire un peu savant, montrer que j'ai étudié, si vous voulez. Je rigole. Mais... parce que bon, ça ne sert à rien de mettre des pots d'hébreu, si ce n'est que c'est mignon de voir des petites lettres hébreux, donc je ne me suis pas pu m'empêcher. Donc, voyez, les gémissements, ils sont dans la maison de servitude, c'est Dieu qui se souvient de son alliance, donc de sa promesse, si vous voyez, même unilatérale, de venir aider. Parce que si les Hébreux sont là-bas, c'est parce que c'est eux qui se sont mis dans le pétrin en s'enlisant dans l'Égypte, finalement. Je suis l'Éternel, je vous affranchirai, donc c'est Yatsa, toujours, hein. Des travaux dont vous chargent les Égyptiens, je vous délivrerai de leur servitude, je vous sauverai à bras étendus et par de grands jugements, je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, vous saurez que c'est moi l'Éternel votre Dieu qui vous affranchis des travaux, je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham. Donc vous voyez, il y a un salut, mais il y a l'idée, c'est à cause de l'alliance, de la promesse de Dieu et pour l'alliance. Vous voyez, c'est pour vivre avec Dieu, pour vivre ensemble dans cette paix. Donc, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout. Alors, si j'ai mis Matthieu 6, parce qu'on retrouve, si vous voulez, un certain nombre de ces choses, voilà, pour essayer d'explorer un petit peu les différentes dimensions, si vous voulez. Donne-nous le pain. Alors le pain de ce jour ou le pain super substantiel, on ne sait pas comment traduire ce mot, c'est ambigu. Moi je dirais souvent dans la Bible, quand c'est ambigu, c'est fait pour et que ça veut dire les deux en même temps et que c'est pour dire que les deux sont indissociables comme les deux faces d'une feuille de papier. Et donc c'est le pain de ce jour, oui, on a besoin de pain pour manger, matériel, concrètement, et il nous en faut tous les jours à peu près, grosso modo. Et puis le pain spirituel aussi, et puis c'est aussi le pain de ce jour, le pain du lendemain, donc le pain du futur. Donc si vous voulez, il y a tout ce champ, mais là on est encore voilà, dans la construction de l'être, Dieu qui nous nourrit pour qu'on puisse, voilà. Il met ça en premier finalement, le pardonne-nous nos offenses et puis apprends-nous aussi à pardonner, donc ça c'est l'idée d'une... donc de la, du, droit, du salut juridique, hein, et puis du coup avoir une cohérence aussi dans la réconciliation avec les autres. On retrouve ce point-là qui était premier donc dans les 10 paroles, ou bien dans, non, le premier dans le psaume par exemple, oui, mais peut-être aussi dans les 10 paroles, et puis fait qu'on ne soit pas enfermé dans les problèmes finalement. Dans les difficultés, dans les épreuves, on retrouve le délivre-nous des pièges. Donc c'est encore le don d'une liberté, voilà, de pouvoir. Et puis ensuite, délivre-nous de la source, fait qu'on soit pas enfermé, délivre-nous de la source du mal. Le malin, c'est pas forcément le diable. Je suis pas convaincu que Jésus croyait à l'existence d'une puissance transcendante du mal. En tout cas, moi pas tellement du tout, même, bien sûr. C'est plutôt le mal qui est en nous-mêmes, comme délivre-nous de la... De la jalousie, ne soyez pas donc de vouloir les biens des autres. Nous délivre-nous voilà de cette source de mal. Donc on retrouve finalement ces trois dimensions qui me semblent les principales. Voilà. Alors ce qui est rigolo, je crois, c'est que le Notre Père, il nous dit qu'il faut prier tout seul dans sa chambre. Et effectivement, c'est dans cette sincérité, dans une alliance, là, l'alliance, elle est seule à seule avec Dieu, elle est individuelle, la personne avec son Dieu, mais quand même on prie au nous, en fait, au pluriel. Et pratiquement, tout le temps, le salut, ça ne vient que de Dieu, et c'est au nous, ça sauve le peuple, ça sauve l'humanité. Bon, c'est vrai que, on parle même d'Abraham. Donc à ce moment-là, quand même, c'est une personne qui, effectivement, qui est appelée. Abraham, va vers le pays que je te montre. Mais si vous voulez, c'est une personne qui est comme le père du peuple. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui est comme un médiateur pour le peuple. Mais c'est quand même pour le peuple. C'est une multitude. Voilà, tu es béni et tu seras bénédiction pour un grand nombre de peuples. Vous voyez, donc c'est quand même... est-ce que c'est Abraham tout seul ou c'est Abraham comme serviteur pour tout le peuple? C'est un peu ambigu. En tout cas, c'est souvent l'idée d'un médiateur comme ça, d'un champion qu'on va retrouver dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau, c'est pas ça. Chaque personne est pas intéressante uniquement comme champion ou comme serviteur. Chaque personne est importante individuellement pour elle-même. C'est avec elle qu'il y a alliance avec Dieu pour la sauver, elle. Et ensuite... Elle reçoit dans ce salut le fait de penser en nous, c'est-à-dire de penser aux autres. Mais ce n'est pas simplement comme serviteur, d'une manière utilitariste. Comme par exemple, Dieu choisit Saül comme roi. Il est bien obligé, les gens le lui demandent et ils y tiennent très fort. Donc il dit, bon, d'accord, je vais donner un roi. Il choisit un roi. Ce n'est pas si mal au début avec Saül. Puis, finalement, ça ne marche pas. Bon, ben, tant pis. On zappe Saül dans un certain sens et puis on prend David à la place. Donc là, c'est pas l'idée, si vous voulez, de trouver le champion qui va pouvoir bien servir comme un bon petit soldat. C'est pas du tout l'idée, à mon avis, dans le Nouveau Testament. Voilà. Alors pour cette idée de salut, je pense que là, Romains 7 n'est pas inintéressant parce que le salut de l'homme, vous voyez, comment est-ce que ça marche? Bon, on aurait pu prendre 1 Corinthiens 13, si vous voulez, qui est bien sûr très connu avec l'idée que c'est par l'amour et c'est pas par la connaissance, c'est par ça, mais comment ça marche? Vous voyez, c'est pas tellement par une connaissance qu'il faudrait avoir, une connaissance de la théologie, savoir que Jésus a donné sa vie pour nous, savoir que Dieu qui, savoir que Dieu que. C'est pas tellement dans une orthopraxie, c'est-à-dire dans des bons actes, avoir les bons rites, le bon baptême, la bonne communion, le bon machin, le bon truc, les bonnes pâtes, le bon... C'est pas tellement ça. C'est plutôt le fond du problème. C'est notre être qui est quand même un peu... qui n'est pas en forme, j'allais dire. C'est ce qu'on va voir là, dans ce texte. Et l'idée, eh bien, que Dieu va nous... à travers ce salut qui est donné... Eh bien, il va intervenir comme un acte puissant qui va injecter une nouveauté dans l'homme. Et c'est ce qu'on voit. Il y a l'idée un peu, la dixième parole du décalogue, l'homme qui s'en sort pas, si vous voulez. Car limite, une idée assez juste quand même de ce qui serait bien et bon, mais qui n'arrive pas à le faire. Et donc, il dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir être délivré de ce corps de mort? C'est pas le corps... comme si Paul méprisait la vie en ce monde, et puis le corps, la santé, et puis les moyens. Non, c'est plutôt une dichotomie, plutôt une opposition entre vivre selon le corps, on pourrait dire selon les instincts animaux, selon l'instinct de survie, et puis vivre selon l'esprit. Et donc nous sommes en tension entre ces deux saluts, ces deux soifs de salut finalement, salut de notre corps, de nous-mêmes, de notre être, de notre... de notre confort, de notre bonheur, de notre paix, de notre tranquillité, je ne sais pas quoi. Et puis ce souffle, si vous voulez, de l'esprit qui nous fait souhaiter les choses, les meilleures, les choses d'en haut. Et donc on est pris en tension là-dedans. Et la loi, c'est-à-dire les bons conseils, la connaissance, ne nous aide pas tellement finalement dans là-dedans, parce que ça ne nous donne pas plus de force, ni finalement le fait que sur le vif, à un moment donné, on va bien choisir, et on va choisir ce qui fait vivre et non pas ce qui fait mourir. Et donc finalement, la question c'est d'avoir donc en Jésus-Christ, grâce soit rendue à Dieu, par Jésus-Christ notre Seigneur, qui a donc dit d'abord, il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, donc ça c'est l'idée de qu'on n'est plus dans la comptabilité des fautes, hein. Et puis ensuite, eh bien, il y a une force qui est donnée, en Christ pour que nous puissions marcher en nouveauté de vie, non selon la chair mais selon l'esprit, donc il y a une sorte de deuxième étape dans l'évolution, dans la création. Alors, ensuite, si vous voulez, j'ai mis Ésaïe 43, parce que dans le deuxième Ésaïe, ce qu'on appelle le Deutéro-Ésaïe, va apparaître quelque chose qui va être plus présent dans le Nouveau Testament et qui va s'incarner en Jésus-Christ, si vous voulez. C'est l'idée d'un serviteur que Dieu a choisi pour apporter son salut. Et à partir de ce moment-là, c'est plus seulement Dieu qui est sauveur. Jusque-là, c'est toujours Dieu qui sauve. Enfin, pas toujours. Enfin, on peut trouver, par exemple, pour David comme étant, peut-être on va le voir un petit peu après, David, mon serviteur que je sauverai, c'est dans 2 Samuel 3, 18, c'est par David, mon serviteur que je sauverai mon peuple d'Israël. Donc, vous voyez, on peut retrouver cette idée d'un serviteur qui sauve. Mais dans Ésaïe 43, et puis, bon, j'ai mis Ésaïe 42 aussi, mais on pourrait mettre Ésaïe 52, 53, tout cet Ésaïe, il y a l'idée déjà d'un salut un peu ultime qui va se donner comme David, mais à une puissance transcendante, vous voyez, parce que c'est pas juste un petit salut comme ça pour chasser les Philistins ou je sais pas quoi. C'est quelque chose de plus profond que ça, et ça va jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'aux îles, c'est-à-dire vraiment les piliers de la terre qui sont tout à fait au bord de la fin du monde. Donc ça, cette idée, si vous voulez, de serviteur, hein, 42, 43, et puis les autres, c'est un salut qui est déjà une attente de Messie, une attente de la fin des temps, finalement. Hein. Alors à partir de là, on va avoir cette attente, finalement, parce qu'il y en avait d'autres, des annonces de Messie possible, hein. Mais c'est ça qui va s'incarner en Jésus-Christ, et à partir de là, la confession de foi du Nouveau Testament, c'est que Dieu est sauveur, hein, mais comme le dit Ésaïe, il n'y a pas d'autre sauveur que Dieu, d'accord, hein, tout le monde est d'accord, mais on verra aussi que le Jésus-Christ est sauveur. Comme c'est marqué dans, par exemple, dans 1 Jean 4, 14, hein, le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Vous voyez, c'est quand même Dieu qui est la source du salut, mais c'est le Fils qui est sauveur. Et ça, pas simplement comme serviteur. Vous voyez, c'est un peu plus que ça. Voilà. Et on va retrouver, comme acte 4, par exemple, voilà, il y a de salut en aucun autre qu'en Jésus. Et ça, bah, c'était carrément la phrase qui était mise dans Ésaïe 43 pour l'Éternel, si vous voulez. Donc en fait, c'est quand même, ça devient très puissant, très fort, comme incarnation du salut en Jésus-Christ. Bon, le salut vient quand même de Dieu, si vous voulez. Alors ensuite, dans Éphésiens, on retrouve un petit peu, si vous voulez, cette idée d'une deuxième étape dans le salut de l'homme, hein, avec comme une nouvelle création. Alors j'aurais pu mettre Jean 1, si vous voulez, avec bien sûr le prologue de Jean, ou bien naître d'eau et d'esprit dans Jean 3, ou d'autres passages, hein. Mais là, donc il y a l'idée, si vous voulez, qu'au début on était pécheurs, on a fait plein de fautes, d'accord, hein, bon, mais c'est plus que ça, si vous voulez, on vivait Selon les convoitises de notre chair, on retrouve encore cette faiblesse, quelque chose qui en nous est de l'ordre de l'animal, oui, pas vraiment humain, pas vraiment fini, voilà. C'est pas encore l'Adam de la Genèse qui est à l'image de Dieu et qui est capable de bonne créativité, si vous voulez. Non, on est encore au début du sixième jour avec, avec les singes, hein. Donc on retrouve cette idée, bon, qui est très, même si Éphésien n'est pas peut-être la plume de Paul, bon, c'est quand même un petit peu paulinien. Ensuite, voilà, Dieu qui est riche en miséricorde à cause du grand amour dont il nous a aimés, on retrouve, si vous voulez, là, la cause première, hein, qui est le seul amour de Dieu. Il n'y a pas l'idée que Jésus-Christ aurait payé la note sur la croix, ce n'est pas du tout l'idée de tous ces textes, c'est un salut qui est purement enraciné dans la bonté et l'amour de Dieu. Hein? Et donc, il nous a rendus vivants ensemble avec Christ, c'est par grâce que vous êtes sauvés, donc le verbe est au parfait, c'est-à-dire qu'on est sauvé de chez sauvé, si vous voulez. Il nous a ressuscités ensemble, donc ça c'est déjà au passé, donc on a été ressuscité plutôt, voilà. Contrairement à l'imaginaire populaire où la résurrection, c'est quand le corps meurt et puis qu'on peut entrer dans le paradis. Non, on est déjà dans la vie éternelle, on est déjà dans une nouveauté de vie qui est plus forte que la mort. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc ça, c'est l'idée d'un pouvoir, d'une capacité à gouverner, à faire du bien, et un bien qui est transcendant, qui est créateur. Donc là, c'est là qu'il y a finalement la création comme Adam, finalement, hein. À l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est ce qui est finalement cette deuxième étape de l'évolution, de la création qui est donnée en Jésus-Christ. C'est un peu comme ça que c'est compris. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Alors ça, effectivement, c'est là que ça devient un peu chaud, parce que est-ce que la foi est une œuvre ? C'est ce que certains vont pouvoir penser, en particulier si on voit la foi comme une confession de foi, comme une connaissance de la théologie, la connaissance du salut, la foi comme capacité à se convertir, à se tourner vers Dieu, à espérer en lui, à donner sa vie pour lui, etc. Et donc, finalement, je ne pense pas que ce soit ça qui soit dit, si vous voulez, hein. La foi est un moyen, dans ce cadre-là, dont Dieu est l'auteur. C'est-à-dire, c'est l'idée d'un vecteur de cette nouveauté de vie qui est donnée. Et c'est bien ce que dit Paul, ça ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, si vous voulez. Hein. Nous sommes son ouvrage, ayant été créé en Jésus-Christ. Et les bonnes œuvres, c'est créé pour de bonnes œuvres. Et donc ça, on retrouve un peu le décalogue, une libération première de Dieu, puis en disant, ben voilà, maintenant je vous ai libéré pour vivre et pour faire vivre, pour libérer, et la vie bonne et belle, c'est quand même plutôt ça. Donc c'est une libération. Alors on pourrait se dire, on retombe dans une dépendance, voilà, un peu la feuille de route, tu vas me faire ci, tu vas me faire ça. C'est pas tellement l'idée du truc, je pense. On est préparé... il y a des vocations qui sont adressées, mais Dieu ouvre plutôt une multitude de possibles, plus que nous n'en avions imaginé ou imaginé possible. Et donc il y a une foison de bonnes œuvres possibles qui sont posées devant nous et par lesquelles nous pouvons choisir. Alors à contrario, j'ai mis par exemple Marc et puis Pierre, qui peuvent dire quelque chose d'un peu différent peut-être que ce que je vous ai dit tout de suite. C'est Marc avec ce passage de Jésus, si vous voulez, où Jésus dit qu'il voudra sauver sa vie, la perdra, mais qu'il perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle, la sauvera. Il y a l'idée, voilà, il faut bien se sacrifier pour être sauvé, si vous voulez. Je ne pense pas que ce soit ce qui soit en cause. C'est vrai que dans la hiérarchie des priorités dont je vous parlais, c'est vrai que le spirituel est mis en premier, et puis ensuite peut-être l'éthique, et puis après le bonheur et le confort de la vie en ce monde, qui n'est pas du tout négligeable ou mauvais du tout. Il n'y a pas l'idée à renoncer à ça par principe. Au contraire, c'est une bénédiction de Dieu, c'est bon et c'est sain et c'est joyeux. Mais c'est une question de priorité. Donc il y a l'idée peut-être que pour certains que non, voilà, il faut complètement supprimer la dimension, sacrifier cette dimension pour laisser toute la place au spirituel, à l'amour et machin. C'est pas l'idée du truc. Simplement, je pense que c'est plutôt ce qui nous perd, c'est le vouloir se sauver. Et donc c'est cet égoïsme finalement. Et ça, on le retrouve beaucoup dans dans je veux dire, beaucoup, beaucoup, malheureusement, de la prédication chrétienne. Bon, c'est maladroit, sauf que bon, je suis d'accord que pour laisser le salut s'incarner en nous, il y a besoin de faire des choses. Mais c'est pas l'idée de, faire son salut, si vous voulez. Ça fait extrêmement du dégât. Si on donne 100 balles à un clochard pour faire son salut, c'est tout juste dégueulasse, parce que c'est tout juste en fait de l'égoïsme et de l'égocentrisme, et on utilise le pauvre comme un Kleenex. Ou si on prie Dieu, quand on dit aux gens, mais de toute façon vous êtes déjà sauvés, je veux dire, il n'y a rien, on ne doit rien à Dieu, c'est comme ça, les gens disent, mais alors pourquoi on se fatiguerait à aller au culte, à prier et à lire la Bible, hein, et à faire un peu de bien sur terre? Ben oui, mais si on le fait pour être sauvé, c'est tout juste dégueulasse, quoi. Parce qu'on est dans un égoïsme et on est encore à soigner son avenir éternel. C'est tout juste une façon morbide de vivre, une façon étriquée, une façon égoïste. Et ça, c'est l'angoisse, la mort, en fait. C'est tout juste dégueulasse à vivre. C'est pas que ça fâche Dieu. Mais donc ça marche pas comme ça, si vous voulez. Et ça, on se perd si on vit comme ça. Mais non, c'est plutôt l'idée de dire, ben en fait... Voilà, je mets en premier de vivre quelque chose de beau et de vrai. Et puis, voilà, chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus, comme dit Jésus donc dans Matthieu 5 ou 6, je ne sais plus. Donc, je pense que c'est plutôt ça, si vous voulez, qui est dit là-dedans. Alors, qu'il y ait des choses à faire, je veux bien, parce que si vous voulez, donc ce qu'est à faire, c'est plutôt à mettre le spirituel en premier, de rétablir cette hiérarchie dans notre être et pouvoir ainsi soigner cette ouverture à cette nouveauté de vie. Mais il n'y a pas d'enjeu, si vous voulez, à mon avis, sur la vie éternelle, ce n'est pas en cause. C'est simplement que vivre, c'est ça, et que donc c'est plutôt sympa de le faire. Voilà, c'est tout. Ensuite, 1 Pierre. C'est gênant parce que, si vous voulez, il y a marqué dans beaucoup de traductions, hein, vous avez pas, c'est pas par des choses périssables, de l'argent, de l'or que vous avez été rachetés, de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, hein, mais par le sang précieux de Christ comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alors on peut trouver dans des lettres de Pierre, on peut trouver dans un petit passage de l'Évangile, dans l'Épître aux Hébreux et quelques autres passages, l'idée de la rançon, quoi. Le Christ comme victime expiatoire, traduit parfois comme ça, dans 1 Jean, ou de rachat, de rançon. À mon avis, c'est simplement une mauvaise traduction, parce que lutroo, qui veut dire effectivement dans le vocabulaire juridique en société, si on a fait, par exemple, un accident et qu'on a cabossé l'aile de la voiture de quelqu'un, ben, en fait, il faudra l'indemniser. Et donc, ça peut être ça, effectivement. Mais on utilise le même verbe dans les Septante, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, pour dire simplement Dieu qui rachète son peuple hors d'Égypte, donc d'un salut qui n'a rien à voir avec le paiement d'une rançon. Donc, en fait, ça veut tout juste dire... ça veut tout juste dire délivrer, en fait, si vous voulez délivrer... sauver, si vous voulez, voilà, c'est ça. Donc ça ne veut pas forcément dire du tout la rançon, et je pense que là, ce n'est pas du tout en cause, parce que, justement, il dit que ce n'est pas en payant de l'or et de l'argent, donc c'est pas, et même le Christ, à la limite, ce serait de l'or et de l'argent, son corps. Ce n'est pas donner des choses matérielles, c'est plutôt comme le sang précieux du Christ, qui est un agneau sans défaut. Donc ça, c'est typiquement la référence, justement, à la Pâque juive. La Pâque juive, qui est un salut sans rançon payée à personne, c'est justement... l'amour, la bonté de Dieu qui décide de sauver, point. Il n'a pas besoin que les Hébreux payent la faute pour accepter de s'intéresser à eux, ça n'a rien à voir. Il y a l'amour premier, la grâce, le pardon. Ensuite, il lutte au haut, ise le peuple. Et il y a l'idée de l'agneau, l'agneau pascal. L'agneau pascal, ce n'est pas un sacrifice offert pour attendrir une divinité courroucée qui ne pourrait pas pardonner si on ne lui offre pas des sacrifices. L'agneau, c'est fait pour être mangé, et donc c'est pour prendre de la force, pour s'avancer dans le désert, s'avancer dans cette nouveauté de vie. Et donc c'est le mode d'emploi du Christ. Il y a le sang qui vient dire simplement, voilà, vous êtes au bénéfice de cette grâce et de cette bénédiction de Dieu qui annule vos fautes, qui vous protège de la mort qui passe, voilà. Et puis deuxièmement, il faut se nourrir du Christ, manger ses paroles, sa façon d'être, pour nourrir notre dynamique de vie, la traversée du désert, et pour arriver dans la terre promise. Et donc on est libéré du péché et de la mort, mais c'est un péché, c'est plutôt la racine du péché en nous, ce qui nous faisait pécher. C'est pas effacer l'ardoise, et la mort, c'est finalement le fait de n'être pas vivant, finalement, d'être non vivant. C'est plus une absence de vie que de mort, et donc on est sauvé en recevant la vie. Alors on a dans Luc 4 un petit programme que l'on voit du Christ. Alors il reprend Ésaïe qu'on avait vu tout à l'heure pour dire comment Jésus-Christ va travailler. Donc c'est beaucoup, beaucoup une proclamation finalement. Hein. C'est par la parole, une parole lumière peut-être, une parole qui éclaire, une mise en lumière. Avec le soigner le cœur, c'est soigner le fond de l'être de la personne. On retrouve bien cette idée de transformation interne en nous. Ce n'est pas simplement au ciel qu'il faut effacer l'ardoise ou je ne sais pas quoi, ça, d'accord. Il y a ce pardon qui est donné, oui. Et puis il y a le soin. Et puis, finalement, là, le pardon, c'est plutôt en troisième, c'est l'année de grâce, ou bien renvoyer libre les opprimés. On peut retrouver l'idée d'enlever la racine du péché en nous, on peut éliminer les pièges, la souffrance, les culpabilités anciennes, tout ce qui nous coinçait. Alors, si j'ai mis Romains 8 et Romains 4, c'est pour l'idée d'un salut progressif. C'est vu comme un salut, j'en parlais dans une prédication récemment, tout est donné en Christ, mais tout reste à faire. C'est donné comme un germe. Et en ce moment, c'est comme on vit comme un accouchement. Donc on est déjà dans l'heure terminale qu'annonçait Ésaïe, la fin du monde, la fin des temps, le royaume de Dieu qui est présent. Il est présent déjà en nous, mais comme un accouchement. Donc il y a du déjà là et du pas encore qui est à discerner. Discerner en nous ces frémissements de la vie nouvelle, du Christ en nous finalement. Et puis déjà sentir aussi ce travail qui reste encore à faire pour que ça se développe. Alors il y a toutes les paraboles agricoles qui sans cesse jalonnent l'évangile. Et puis on a aussi dans Jean 4 l'idée de l'heure vient et elle est déjà venue. Voilà, on est dans ce changement d'heure, ce changement d'heure progressif. Le Messie doit venir, il est en train de venir, il est là. Voilà, et en même temps il vient, en même temps il est là. Et on sait que c'est vraiment lui, le sauveur du monde. Et voilà donc le truc. Alors ensuite, 1 Timothée, c'est pour dire ce qui est discuté par certains. Voilà, tous les humains sont sauvés tels à la volonté de Dieu. Et si Dieu est un peu puissant, s'il veut que tout le monde est sauvé, il y arrivera. C'est ma conviction. Alors, j'aurais pu mettre Luc 15, qui est ma parabole préférée, pas qu'à moi, si vous voulez, avec le berger qui sauve toutes les brebis, sans même la plus perdue des brebis perdues. Et puis finalement, pour terminer, Luc 7, avec ce triptyque, si vous voulez, tes péchés sont pardonnés, déjà pardonnés, affaire réglée. On n'est plus dans cette comptabilité des dettes, ce n'est pas en cause. Ta foi t'a sauvé, déjà sauvé. Voilà. Et puis maintenant, l'idée de va en paix, l'idée quand même de bouger les jambes, d'avancer dans cette nouveauté de vie qui est proposée. Et donc, il y a un petit programme qui est proposé, si vous voulez, pour le déploiement de ce salut, si vous voulez, en Jésus-Christ. Voilà, est-ce que vous avez des remarques sur ce petit parcours que je vous ai proposé sur le salut dans la Bible ? Donc, vous avez compris, je pense, l'abandon complet de l'idée de la... Oui ? Oui, allez-y. Non, mais oui. Bon.
Et donc, d'après ce que j'ai compris, vous voulez dire que le salut est pour tous, quelle que soit la personne.
Moi, c'est ma conviction. Alors, c'est très discuté. C'est ce qu'on appelle l'apocatastase, savoir si tout le monde est sauvé ou pas tout le monde est sauvé.
C'est ce que Dieu voulait. Il veut que tout le monde soit sauvé.
En tout cas, Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Oui. Moi, c'est ce que je lis, si vous voulez, en tout cas dans Luc 15, par exemple, la parabole de la brebis perdue, puis beaucoup de passages de Jésus qui dit, je rassemblerai tout le monde et ils seront tous là et on fera la fête ensemble. Moi, je pense, mais pas tout en tout le monde, c'est-à-dire qu'il y a justement cette purification, si vous voulez, de l'être, guérison de l'être, et donc ce qui en chacun est de l'ordre de la mort, de la haine, de la méchanceté, de la folie, de la douleur, va être purifié par ce salut qu'est l'amour, en fait. Et donc on ne croisera pas Hitler et Ben Laden dans les couloirs du paradis, si vous voulez. Ça rassure un peu. Ils seront sauvés, mais ça ne sera plus Hitler de chez Hitler. On aura du mal à le reconnaître. Peut-être qu'il aura encore sa moustache qui peut nous aider à le reconnaître. Bien comme c'est de mauvais goût, je trouve peut-être que ça ne sera pas sauvé non plus. Je ne sais pas. Mais voilà, je crois que voilà, c'est plutôt l'idée d'une purification de la personne. Et il y a un million de passages qui montrent ça. Si vous voulez, le jugement comme une vendange, un pressage, une fermentation. Donc c'est l'idée voilà, d'une purification pour prendre la moindre goutte de bon jus en chacun. Bon, puis même si vous voulez, quand on dit simplement que Dieu est amour, il est comme un père, comme une mère qui nous aime tendrement. Je ne sais pas, par exemple, les parents de ce fou là, qui est allé, ce tueur de masse, là, 150 personnes sur la falaise, ses parents, peut-être qu'ils aiment quand même leur fils, si vous voulez. Donc si les parents y arrivent, Dieu devrait peut-être y arriver aussi. Alors ensuite, il ne gardera pas sa folie et ses souffrances qu'il avait. C'est une autre question.
En fait, le sujet est quand même délicat parce qu'il y a 5 minutes, vous nous parliez d'un salut qui est aujourd'hui maintenant. Et là, vous nous parlez d'un salut qui serait dans un paradis,
oui.
Comme si c'était acquis. Donc en fait...
Oui, c'est l'accouchement, c'est le coup de l'accouchement.
Oui, mais disons que l'idée pour finir de savoir si dans un monde futur on croisera Hitler et tout ça, c'est pas vraiment important, j'ai l'impression.
Non, oui. Oui, c'est une façon. C'est pas très important. Cela dit, c'est l'argument massif qu'on donne contre l'idée du salut universel. Alors ça, le salut universel, c'est très discuté depuis toujours. Origène était pour, finalement, on l'a grondé. Je ne sais pas, hein, si vous voulez, ça dépend un peu des avis des gens. Hein. Moi, je dis les choses comme je le pense. Cela dit, si vous voulez, c'est...
Comment ça se fait ?
Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils préfèrent être dans un paradis avec Coluche et Gainsbourg, plutôt avec Mère Teresa et Jean-Paul
II. S'il y a tout ça, ça va bien rigoler aussi, non ? Oui. Mais de toute façon, si vous voulez, grosso modo, quand on parle du salut ici, c'est pas du salut dans la vue future. C'est pas la question. Il dit le salut, comme je vous disais tout à l'heure, le salut, c'est on est déjà ressuscité. Et donc, la question, c'est de vivre de ce salut maintenant. Et Jésus dit grosso modo, il dit, écoutez, vous inquiétez pas. Ensuite, ce qui est vivant maintenant, ça restera après. Donc, point, c'est tout. Donc, si vous voulez, la question, c'est de vivre comme tes péchés sont pardonnés, ta foi t'a sauvé. Et puis bon, quand il met le salut au parfait, si vous voulez, c'est au parfait de chez parfait, donc on est complètement, parfaitement sauvé. C'est déjà acquis.
Mais comment est-ce qu'on peut articuler cette notion, enfin articuler, c'est peut-être pas le bon verbe, mais tant pis, cette notion de salut pour tout le monde avec des principes théologiques comme la prédestination?
Ben, la prédestination, justement, c'est qu'en fait, tout le monde est prédestiné au salut, mais il y a des choses qui, en nous, sont prédestinées à la perdition. Par exemple, nos souffrances, nos faiblesses, notre convoitise, puisque c'est le 10e des 10 paroles, notre convoitise, elle est prédestinée à passer à la trappe. Et c'est ce que dit aussi les 10 paroles, quand il le met ça au futur, au lieu de le mettre à l'impératif. Tu ne convoiteras pas ce qui appartient, c'est à la fois un appel, en disant, ben, c'est comme ça, c'est quand même la vie est plus belle comme ça. Donc peut-être ce serait pas mal d'espérer ne pas trop convoiter, mais on fait comme on peut. Mais il y a la promesse qu'on sera comme ça. Et donc ça veut dire que notre convoitise, elle est prédestinée à passer à la poubelle. J'espère, hein, je pense. Hein.
C'était vraiment l'idée de Calvin.
Calvin, je pense, parce qu'il disait qu'il n'y a rien de plus joyeux que la doctrine de la prédestination. Donc s'il dit ça, c'est que lui... Bon, alors cela dit, à force de se défendre, parce qu'il a défendu bec et ongles son idée, donc il est devenu un petit peu, il s'est incrusté, enferré dans cette idée. Et c'est vrai que moi j'aime bien, par exemple, les commentaires du Nouveau Testament de Calvin. Ils sont souvent, c'est original, c'est touchant, c'est spirituel, c'est bien vu. Sauf quand il frôle un sujet qui touche à la prédestination, il part en torche. C'est bizarre, à mon avis, c'est trop... On l'a trop attaqué là-dessus, et du coup, il a exagéré, il s'est mélangé un peu, il a trop forcé. À mon avis, il lui manque de dire que voilà, en fait, tout le monde est sauvé. Il manque ça à mon Calvin, mais cela dit, bon, c'était il y a 500 ans, et...
On lui pardonne.
On lui pardonne. Il était pour se réformer sans cesse, ben... Peut-être que enfin, c'est une mission qu'on nous donne de poursuivre sa réforme.
Donc c'est important de voir cette pluralité en fait, hein, parce qu'on a peut-être l'idée que le salut ce serait quelque chose de finalement monotone. Hein. Souvent, d'ailleurs dans le protestantisme, ça a été compris comme le salut est un événement unique à travers la croix de Jésus-Christ. Thématique de la rédemption, tout ça semble être complètement ramassé dans un événement unique. Et là, ça permet de redéployer à la fois le vocabulaire, les idées et le champ d'application. Et on va voir avec, je dirais, la réception du salut dans quelques bribes de théologiens et de moments de l'histoire du christianisme, qu'effectivement, il y a eu différents champs d'application, différentes compréhensions, donc une vraie pluralité. Et je vais plutôt vous présenter ça de façon typologique que de vous dire voilà la voie qu'il faut retenir, même si j'ai préparé un petit texte d'André Gounel pour la fin. Ça sera la cerise sur le gâteau. Se dire aussi qu'il n'y a pas d'abord que le christianisme qui pense la question du salut, en fait. Le christianisme va apporter une réponse originale à deux grandes familles de réponses. La première famille de réponses essaie de dire quelque chose au fait que le monde tel qu'il est ne va pas. Vous voyez, cette famille qui considère qu'il faut rejeter le monde, que le monde est corrompu. Et ça se trouve aussi bien dans le platonisme que dans le bouddhisme, hein, qui parle de l'impermanence, qui parle de cette vanité qu'il peut y avoir à s'investir dans le sensible, avec le développement d'une ascèse qui va permettre de s'arracher à ces accidents, pour reprendre un terme platonicien. Donc il y a une première famille, et puis une deuxième famille, c'est de considérer que, au contraire, le monde est l'émanation de Dieu, l'expression de l'être de Dieu, et qu'il faut donc se conformer au monde. Et en disant cela, je vous embarque sur... Il faut se conformer à une théologie naturelle. C'est-à-dire que le monde, la nature, serait porteuse d'une sorte de loi universelle qu'il s'agirait d'épouser. Et alors ça, c'est aussi bien le confucianisme que l'islam, que le catholicisme, en fait. Et on pourrait dire le pentecôtisme aussi. L'idée que Dieu gouverne l'intégralité du monde. Et à partir de ce moment-là, le monde et l'histoire dépendent de Dieu, et nous, notre travail, c'est de nous adapter à cela. Et il me semble que les théologies bibliques proposent une troisième voie, et je pense que le protestantisme y adhère, c'est penser le salut comme une transformation du monde. Donc évidemment, on fait toujours les malins. C'est ni un rejet, ni une adoption en l'état, c'est une transformation. Donc c'est un peu ce sur quoi Marc a abouti, le fait qu'on fasse une sorte de sélection de ce qui participe du projet de Dieu, et puis un rejet de ce qui le contrarie plutôt. Ça s'appuie sur cette idée qu'on trouve notamment dans l'Apocalypse, Dieu qui fait toute chose nouvelle. Et qui rend toute chose nouvelle, avec cieux nouveaux, terre nouvelle, mais au sens d'une métamorphose, transfiguration, pour reprendre un terme de l'Évangile. Et vous voyez, comme champ d'application, moi je le verrais bien, ultimement, fin 19e, début 20e, avec l'apport des Lumières, bien sûr, sur ce qu'on appelle désormais les thérapies nouvelles. Aussi bien la psychanalyse naissante qu'ensuite les théories comportementalistes, et puis tout un tas d'autres thérapeutiques, la PNL, etc. L'idée que il y a la possibilité de transformer l'individu pour le rendre plus en adéquation avec celui qu'il pourrait être. On verra ça à un moment donné avec Teilhard de Chardin. Donc, ramener l'histoire du christianisme dans un ensemble pour voir aussi la singularité. Alors, si on reprend cet ensemble, moi j'y verrais bien deux veines majeures. La première, elle consiste à libérer, et la deuxième, elle consiste à guérir. Voilà. Moi, si je devais essayer de rassembler tout ce que tu as évoqué, je trouverais ces deux lignes, et en méta-titre, je dirais, le salut, c'est mettre hors de danger. Méta-catégorie, voilà. Salut, c'est mettre hors de danger. C'est tirer d'une mauvaise situation. Si on veut rassembler tout cela dans une formule, ça pourrait être ça. Mettre hors de danger, tirer d'une mauvaise situation. Tu as évoqué la sortie d'Égypte avec la libération, tu as évoqué les guérisons avec les récits de miracles, etc. On a fini sur ta foi t'a sauvé, on est pile là-dedans.
Ça, il y avait juste le tes péchés sont pardonnés pour dire, voilà, en quel titre on mérite d'être mis hors de danger, en fait. Mais c'est juste là. Oui, c'est vrai que c'est le zéro avant le point 1 et le point 2, finalement.
En tous les cas, les récits de guérison montrent que des personnes étaient dans une situation qui les coupait de la société, qui les coupait de Dieu, et elles sont rétablies dans une situation de relation normale. Donc elles sont tirées d'une mauvaise passe, disons. Et on a finalement, surtout dans l'histoire de l'Église, insisté sur la sortie d'Égypte et très peu sur l'entrée en terre promise. Or, l'entrée en terre promise, c'est-à-dire finalement l'accès à cette situation où le shalom est possible, hein, une situation harmonieuse, elle est importante parce qu'elle préfigure l'action de Jésus-Christ. Josué, c'est le nom grec de Jésus, en fait. Les deux s'appellent Yeshua, ou les deux s'appellent Jésus, selon qu'on lit le texte hébreu ou le texte grec. Et peut-être que ça peut aussi nous aider à comprendre ce que signifie le salut. Si on se rappelle que la racine Yasha sauvé, qui est dans le texte là que tu as évoqué, je l'ai vu passer, c'est donner de l'espace aussi. Vous voyez, sauver, c'est donner de l'espace. C'est-à-dire, quand on dit sortir du filet, c'est pas autre chose aussi que de pouvoir mettre un pied dans un espace à sa dimension. Ce qui était d'ailleurs finalement le projet de celui qui a la moustache qui te déplaît. Dans l'histoire de l'Église, il va y avoir effectivement cette question qui a commencé à jaillir, c'est le salut pour qui ? Et alors, est-ce que c'est pour tous ou est-ce que c'est pour quelques-uns ? Mais en fait, la première question, c'est est-ce que c'est un salut particulariste ou un salut universaliste ? Avec universaliste, qui est encore plus large que l'apocatastase. La question est de savoir si c'est juste pour les êtres humains, en excluant les animaux, en excluant les objets, en excluant les institutions, ou est-ce qu'il y a une dimension cosmique ? Et de nos jours, cette dimension cosmique, je crois, est complètement évacuée de notre discours, en tous les cas, dans notre Église protestante unie. Mais dans les pays anglo-saxons, c'est encore aujourd'hui une question qui est très importante, et c'est par les États-Unis notamment, que la théologie s'est vraiment préoccupée à nouveau du sort des animaux, avec, je crois, des théologiens comme Finlay, etc. Ce qui est le cas aussi de la théologie orthodoxe, les orthodoxes d'Orient, hein, qui baptisent les animaux domestiques, par exemple. L'Église anglicane fait des cultes.
Il y avait des églises gallicanes.
Ah oui.
C'est
pas anecdotique. Ouais. L'Église anglicane fait des célébrations animaux inclus. Dans cette idée que l'Éternel est le Dieu de la création et pas simplement des êtres humains. Ça, c'est quelque chose à laquelle on n'est pas du tout sensible en France, en dehors de quelques lieux où on va effectivement valoriser ce genre de pratique. Et alors, quand on est sur la question des humains, effectivement, on va avoir plusieurs réponses possibles. La première réponse, c'est « ne sont sauvés que quelques-uns ». Alors, ces quelques-uns, ça peut être ceux qui croient en Jésus. Hein, c'est Matthieu, chapitre 22, verset 14, qui dit « ceux qui croient en Jésus seront sauvés ». Et les autres. Donc, certains vont s'appuyer sur ce genre de verset pour dire « seuls ceux qui croient en Jésus seront sauvés ». Donc on a évoqué la prédestination, peut-être qu'elle s'appuie aussi sur ce verset de l'Apocalypse, au chapitre 7, verset 4, où on parle des 144 000. Et quelques sectes ont considéré que le 144 000, qui était marqué du sceau de l'agneau, correspondait à la frange de la population qui serait sauvée, et donc on essayait d'établir une comptabilité pour savoir si on en faisait partie ou pas. Thomas d'Aquin a une phrase que je trouve assez terrible, la souffrance des réprouvés augmente la joie des sauvés. Ouais. À côté de ça, la prédestination de Calvin, finalement, c'est un joyeux cantique. J'ai pas noté la référence de ses œuvres, mais je pourrais la retrouver. Ceci dit, je pense qu'on la retrouve facilement sur Internet. La souffrance des réprouvés augmente la joie des sauvés. Bon, je reviens pas sur la question de la prédestination, même si je serais tenté d'essayer de la sauver un petit peu dans son contexte, pas pour la sauver aujourd'hui. Aujourd'hui, effectivement, je la prendrais volontiers, comme nous sommes tous prédestinés à la bénédiction, comme disait Paul. Alors, donc, ne sont sauvés que quelques-uns. Ensuite, il y a quelqu'un comme Zwingli qui va dire « sont sauvés aussi ceux qui n'ont pas connu le Christ parce qu'on ne leur a pas présenté ». Il pensait finalement aux Amérindiens. Avant l'arrivée des missionnaires, il aurait été quand même cruel de considérer comme non sauvés ceux qui n'avaient pas eu la possibilité de l'être. Saint-Augustin aussi. Saint-Augustin était quand même plutôt sur une logique de la prédestination. Hein.
Non, en l'occurrence, il parlait aussi de ceux qui n'avaient pas connu. Avant le christianisme, les Grecs étaient aussi chrétiens et étaient aussi logiquement sauvés.
Possible, je ne saurais pas dire, parce que je n'ai pas de référence précise d'Augustin à ce sujet, mais Zwingli, lui, va finalement en venir à dire que il y a des païens vertueux et que ceux-là vont être sauvés. Ce qui est bizarre, parce que Zwingli est quand même un réformé qui est plutôt sur la logique du salut par grâce seul, et d'un seul coup, la question de la vertu interviendrait. Donc, moi, il me semble que c'est non pas une vertu d'acte, mais une vertu d'être. C'est-à-dire le païen vertueux au sens où il a effectivement découvert l'Évangile autrement que par les récits évangéliques. Et là où j'essaie de le sauver peut-être abusivement, c'est qu'il ajoute quand même que ceux qui ont commis des crimes, qui ont mal vécu, ceux qui ne se sont pas convertis en entendant l'Évangile, pour cela, pas de salut. Pas de salut pour ceux qui ont donc refusé l'Évangile, mais aussi pour ceux qui ont été des criminels.
Je reviens un petit peu à ce que je disais il y a un début. À partir du moment où on se pose la question de savoir qui est sauvé, c'est qu'on a en tête l'idée d'un salut futur, une espèce de paradis.
Je vais revenir sur le temps du salut après, mais effectivement, oui, ça...
C'est un peu...
Parle-t-on de la même chose, en fait.
Parce que si, par exemple, s'ils sont sauvés, c'est aussi parce que les personnes qui leur ont dit qu'ils étaient condamnés. Il n'y a pas d'église qui leur ont dit d'être condamnés. Donc, si la question pour eux ne se pose pas,
Ça va être exactement l'une des réponses sur la question du rapport au mal. Oui. Je vais y revenir après là-dessus. Oui.
Mais sauf que le salut, il y a quand même une transformation de l'être. Si cette transformation n'est pas reçue et vécue, il y a quand même un manque d'évolution, un manque de création.
Oui, mais l'hypothèse que l'on peut formuler, c'est qu'il n'y a pas eu de chute non plus pour ces populations-là.
Il péchait contre l'esprit, le péché est invisible.
Alors ça, c'est dans l'évangile de Marc, chapitre 3. Donc le seul péché qui ne soit pas pardonné, c'est justement dans cette perspective, hein, je ne sais pas si vous avez fait exprès de prononcer la question à ce moment-là, mais c'est l'idée que ceux qui refusent ce qui leur est proposé sont ceux qui pêchent contre l'esprit. C'est-à-dire, le péché contre l'esprit, c'est de faire obstacle à la communication divine. Et faisant obstacle à la communication divine, on se prive des bénéfices de cette communication qui est une communication de salut, en fait. C'est finalement le fait d'accueillir l'évangile qui sauve, à la condition d'être conscient d'être perdu. Et effectivement, dans la temporalité, la question se joue. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que finalement on parle très peu du salut? Parce que personne n'a l'impression qu'il faille être sauvé. À tort ou à raison? Certainement un peu des deux. Je veux dire que la société aujourd'hui n'est plus ce qu'elle était au Moyen-Âge et elle n'est plus ce qu'elle était à l'Antiquité. Donc, il y a de bonnes raisons de penser qu'on n'a pas à être sauvé des mêmes choses. Sauf dans la perspective du péché originel qui traverse les âges. Et dans ce cas, la réponse serait la même que celle qui a fleuri à la Renaissance ou à l'Antiquité. On va continuer un peu et on va voir. Je vais essayer de faire des propositions à la fin avec André Gounel qui se pose la question, mais au fond, de quoi est-on sauvé ? Parce qu'il se rappelle qu'un jour il a vu quelque chose d'assez miraculeux. Ce sont des églises baptistes, presbytériennes, unitariennes, qui aux États-Unis ont voulu faire quelque chose ensemble, une sorte d'œcuménisme intra-protestant. Et donc elles ont organisé un grand défilé avec des grandes banderoles « Jésus te sauve ». Et André Gounel dit, le lendemain, dans le journal, il y avait donc un article avec une photo, et la légende du journaliste était, tout le monde était d'accord pour dire que Jésus nous sauvait, mais personne ne nous a dit de quoi. Donc on a commencé quand même à le balbutier, et on va pouvoir essayer de le redire dans peut-être des catégories un peu plus contemporaines. Vous n'êtes pas trop frustré là, ça va ?
Ah non, c'est
pas. Parfait. Et la troisième réponse, qui est donc la réponse franchement universelle, qui évidemment s'appuie sur la première épître de Paul à Timothée au chapitre 2, là, « Dieu n'aura atteint son but que lorsque tous seront sauvés », mais il y a un petit bout d'une lettre de Pierre qu'on squeeze toujours, parce que c'est tellement pas nos catégories. C'est 1 Pierre, chapitre 4, verset 6. Vous êtes assis, tout ça va. Hein. C'est pour cela, en effet, que les morts aussi ont été évangélisés, afin qu'après avoir été jugés selon les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. Vous voyez, dans une temporalité où, après la mort, il y aurait encore des choses à conquérir, eh bien, il y a une évangélisation pour ceux qui sont passés de vie à trépas, qui est envisagée dans l'épître de Pierre, qui envisage aussi le séjour aux enfers, hein, la descente de Jésus aux enfers, etc. Alors, soit on prend au pied de la lettre, en considérant qu'après la mort, effectivement, il y a encore un travail d'évangélisation, ce qui est quand même assez contraire, par exemple, à ce qu'on lit dans les psaumes, ce qu'on entend dans la bouche de Moïse. Soit on se dit que la mort dont il est question n'est pas une mort d'ordre biologique, mais une mort d'ordre existentiel, auquel cas ceux qui, pour le dire de façon très contemporaine, ceux qui seraient dégoûtés de la vie, hein, ceux qui seraient dans une situation de profonde détresse, qui seraient comme morts, pourraient malgré tout être au bénéfice d'une parole qui les relève, qui les ressuscite, qui les sauve de cet état, de cette torpeur dans lequel ils sont. Karl Barth était très là-dessus. Dans la dernière période de sa vie. Dans un premier temps, il était très prédestination. Et puis, dans les années 50, l'humanité de Dieu, il va être sur cette perspective en disant une sorte d'humilité intéressante chez Karl Barth. Je ne sais pas, mais j'espère. J'espère que tous seront sauvés. voilà ma foi. Et Tillich, Paul Tillich ajoute quelque chose d'intéressant. Lui, il est vraiment dans cette perspective cosmique, un salut universel qui embrasse tout finalement. Et il dit, nous sommes d'accord pour dire que des individus peuvent être sauvés, mais un individu n'est jamais seul. Un individu est toujours en interaction avec son environnement, avec des compagnons, des frères, avec la nature. Et donc, quand il est sauvé, ce qu'il y a autour de lui aussi est sauvé. Vous voyez, il y a une sorte de contamination, il y a une sorte de rejaillissement. Et du coup, tous seront sauvés, par capillarité finalement. Il suffit qu'un soit sauvé, et n'est-ce pas le cas de Jésus, pour que tous le soient. Je le dis avec un peu d'ardeur. Parce que...
Ça, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Une petite séquence sur le salut est-il gratuit ? Bon, nous, on va dire oui, bien sûr, mais ce n'est pas aussi simple que ça. Dans l'histoire de l'Église, il y a trois courants. Il y a le courant qu'on va appeler le pélagianisme, où l'être humain doit gagner son salut. Pélage, c'est un homme du IVe siècle qui, du coup, entrait en débat avec Augustin. Et qui, lui, faisait profession de foi que l'être humain se sauve par ses œuvres. Et en fait, se sauver par ses œuvres, c'était obéir scrupuleusement au commandement divin. Ce qui est un petit peu la perspective juive, la loi comme chemin du salut. Respectons les 613 commandements et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes possible. Ensuite, une autre réponse a été ce qu'on appelle le synergisme. Donc, syn avec, energia, enfin ergon plus exactement, l'œuvre. C'est un semi-pélagianisme. Un synergisme, ça veut dire que finalement, on collabore avec Dieu. Hein, co-avec, labora, travailler. Enfin, travail. Et comment ça se passe ? Eh bien, l'idée est que Dieu compense les efforts de l'homme pour qu'il atteigne son salut. C'est la fable que vous connaissez, le charretier embourbé, avec la fameuse morale « Aide-toi, le ciel t'aidera ». Articulé à un texte biblique, on peut trouver ça dans le deuxième livre des Rois, chapitre 5, verset 10. C'est lorsqu'on dit à Naaman que pour guérir de la lèpre, il doit se plonger plusieurs fois dans le fleuve. Donc vous voyez, il faut quand même faire quelque chose pour son salut. Ça ne nous tombe pas dessus. Il faut participer, il faut collaborer. Et le Concile de Trente va être sur cette perspective. Et puis il y a la position par Paillote. Le salut, c'est la seule action de Dieu qui nous fait grâce alors que nous ne l'avons pas mérité. Et traduit pour aujourd'hui avec Paul Tillich, c'est le fait de découvrir que nous sommes acceptés alors que nous sommes inacceptables. Vous voyez, ça c'est une première perche vers... Et aujourd'hui, comment le salut pourrait-il être dit ? Eh bien, peut-être sur un plan existentiel, on se sent tellement indigne, la honte de soi... Eh bien voilà, ça c'est surmonté par le courage d'être dont parle Paul Tillich, et finalement il y a une sorte de restauration. Rédemption. Alors, je retourne sur des questions un petit peu techniques. Comment ça marche ? Les modalités. Alors, il y a plusieurs modalités. Je vais prendre celle qui est la plus proche de nous sur le plan culturel. C'est avec les Lumières au XVIIIe siècle, c'est la pédagogie. Comment ça marche ? Il y a une pédagogie du salut, en fait. C'est-à-dire que le salut, c'est l'intervention divine pour éduquer l'humanité à une morale supérieure. Donc, vous voyez, on est vraiment dans la philosophie d'Emmanuel Kant. Lessing, qui est du XVIIIe, dit, écrit, « Ce que l'éducation est pour les individus, la révélation l'est pour l'ensemble du genre humain. » Et du coup, les textes bibliques, en tant que révélation, sont le cheminement progressif qui va nous faire accéder à l'humanité véritable. Pour le redire avec Emmanuel Kant, qui va nous permettre de devenir majeur. Et du coup, pour Emmanuel Kant, le royaume de Dieu est remplacé par l'humanité morale. Et c'est pour cela que dans le protestantisme libéral du XIXe siècle, on va parler de Jésus comme du maître de l'évangile. Vous voyez, le rabbi qui enseigne, ou le maître d'une nouvelle morale même. Quelqu'un comme Charles Wagner est un très grand témoin de ce courant-là. Hein, quand il va écrire sur la vie simple, quand il sera finalement reçu à Washington dans le bureau ovale, c'est parce qu'en fait, il propose une morale facilement adoptable par le tout un chacun de l'époque. Une autre traduction, ça va être les théologies politiques du XXe siècle, notamment en Amérique du Sud, où Jésus va être envisagé comme le prophète de nouvelles structures sociales. Solidarité avec les pauvres, solidarité avec les dépossédés, solidarité avec les persécutés. Bref, on vient à bout du mal par l'éducation. On n'a pas beaucoup parlé du mal, mais en fait le salut, c'est ça aussi, c'est être sauvé du mal. On va parler tout à l'heure un peu du mal originel, du péché originel. Bon. Et sinon, si ce n'est pas une pédagogie, allez, on parle quand même un petit peu du Christ triomphateur du mal. C'est quand même ce qui a occupé l'essentiel des théologiens chrétiens. Je vais en parler très peu, mais... bon, rapidement, c'est quoi? C'est l'idée que Jésus-Christ remporte la victoire sur Satan, pour le dire dans des termes religieux. Comment ça marche? Donc... Moi, je ne suis pas très adepte de cette théorie, donc je vais lire un peu mes notes. Hein. J'ai écrit pour être sûr de ne pas me tromper. Marc, lui, il arrive à raconter ça.
Ah oui,
ah ouais. Mais là, je ne vais pas trop parler de la satisfaction vicaire, parce que je suis... Voilà. Bon, l'idée est la suivante. Jésus, c'était le prix à payer, la rançon. Ça, c'est des choses qu'on trouve dans les évangiles hein, et dans les épîtres de Paul. Et c'était la rançon à payer au diable. C'est-à-dire, pour neutraliser le mal, il fallait une rançon de cet ordre-là. Et alors, comment ça marche dans la théologie catholique, notamment avec Basile, Grégoire de Nice, Jean Chrysostome, Grégoire le Grand? Eh bien, c'est que on paye la note au diable, mais on le roule. C'est-à-dire que Pâques, c'est le moment où on récupère la mise. Donc ça a été payé, mais il se retrouve avec rien. C'est-à-dire que dans cette idée-là, avec notamment la lettre de Pierre, où il y a cette descente aux enfers, etc., il y a cette idée que le diable n'a pas conservé le prix et que du coup, il a perdu du même coup les hommes qui étaient en son pouvoir. Vous voyez, il y a une ruse contre la ruse du diable. Alors tout à l'heure, on parlait, est-ce que c'est pas parce que quand on ne connaît pas la loi, finalement, il n'y a pas de péché, etc. Eh bien ça, c'est la position d'Athanase. Il dit le mal, c'est la malédiction de la loi parce que le péché a donné à la mort un droit sur les hommes. Donc vous voyez, on personnifie le mal, on personnifie le péché. Hein, c'est une métaphore pour expliquer un peu la stratégie qui est derrière. Comment on fait pour annuler ce mal-là? Eh bien, Dieu ne pouvait rien contre cette loi puisque finalement il en était l'auteur. Et donc, la nécessité de l'incarnation, c'était la nécessité que le verbe puisse faire opposition au verbe. Alors, j'essaie d'être plus clair. La loi, c'est ce qui révèle le péché. Mais Dieu est plutôt du côté de la source de la loi. Donc, pour neutraliser les méfaits de la loi, il faut qu'il y ait à nouveau une parole qui permettent de neutraliser cela. Et comme le péché est entré dans la chair, il faut que la parole entre à nouveau dans la chair. Et donc, si Jésus, qui est l'incarnation du Verbe éternel, meurt sur la croix, eh bien, ça permet de tuer le péché qui se transmettait, tout en préservant le verbe, puisque l'âme, elle, ne va pas mourir. Et l'étape suivante, c'est que comme il y a participation au corps et au sang de Jésus par l'Eucharistie, tous participent de cette victoire de Jésus sur la croix. Donc l'Eucharistie est mise en rapport et en relation avec cette compréhension du rachat. Voilà. Donc vous aurez apprécié que je ne le dise pas de la même manière que Marc, mais lui le dit de façon plus simple. Bon, ensuite, là j'ai pris le mode le plus dur. Le mode le plus doux, mais un peu pénible quand même, c'est calmer la colère de Dieu. Et ça, c'est Luther. Luther et des gens de son entourage avec le jour de colère. Les luthériens sont très forts, hein. Dreyer, jour de colère. Ce qui est un thème d'Ésaïe d'ailleurs. Au fond, Dieu a bien des raisons d'être en colère vu ce que les hommes sont capables de faire, et le Christ a été frappé de tout son être par la colère divine. Sur la croix, il y a Dieu qui dissimule son amour sous le jugement. Et c'est la fameuse sentence de Luther, l'homme est simultanément juste et pécheur. Et donc il est simultanément racheté, quoique condamné. Et les commentateurs s'accordent à dire que si Luther a développé cela, c'est parce qu'il en avait fait une expérience personnelle. C'est-à-dire qu'il avait une vie spirituelle telle qu'il avait éprouvé la colère de Dieu et qu'il avait combattu avec Dieu, mais qu'il avait aussi éprouvé le pardon de Dieu. Et qu'il a donc universalisé une expérience qui lui était très personnelle. C'était quelqu'un d'un peu tourmenté, Luther, mais à vrai dire, comme tous les gens de son époque, paraît-il. C'est Delumeau qui dit ça. Il y a l'idée de la réconciliation avec Dieu en Christ qui va un peu dans le même sens. Le Christ accomplit une pénitence, une expiation pour le péché. L'idée est la suivante, finalement, Dieu n'est pas en colère, il souffre. Mais c'est une souffrance infinie. Et donc, pour neutraliser la souffrance infinie de Dieu, eh bien, il faut la souffrance infinie du Christ sur la croix. Là, c'est la logique de l'équivalence. Et c'est là aussi à cela que nous participons par l'Eucharistie dans la perspective catholique. Autant vous dire que le protestantisme libéral, dès le départ, n'a pas trop franchement marché dans ce genre de combine. Le protestantisme libéral, en fait, a tout simplement considéré que l'idée d'un intermédiaire était inacceptable. Et que ça allait contre la valorisation du sujet. C'est-à-dire que si quelqu'un faisait quelque chose pour moi, alors du coup, je devenais l'objet de sa bienveillance. Je devenais l'objet de son action. Et je cessais d'être un sujet. Et le protestantisme libéral, qui voulait l'autonomie du sujet, a donc considéré que toutes ces réponses n'étaient pas envisageables ou n'étaient pas tenables. Et c'est la raison pour laquelle elle a plutôt valorisé la question de la liberté. Teilhard de Chardin, j'avais dit que je vous en dirais un tout petit mot. Teilhard de Chardin, donc ce jésuite, a essayé d'interpréter l'idée du péché originel. Il a dit, en fait, on parle de péché originel, mais le mieux serait, au regard de la théorie de l'évolution, de parler de création précaire, qui a besoin d'être perfectionnée, une sorte de progression nécessaire. C'est le fameux point oméga de Teilhard de Chardin, c'est-à-dire la pleine révélation du Christ qui est en avant et vers laquelle il faut se tourner, vers laquelle il faut tendre. Et donc, il dit, en fait, le péché originel, c'est quoi? C'est juste la réaction de l'homme finie à l'acte créateur infini. Vous voyez, c'est une sorte de contraction, en fait. Et la contraction n'est pas quelque chose d'heureux, mais après, ça se détend. Et donc, il dit, voilà, ça ne se joue pas du tout sur le plan moral, ça se joue plutôt sur cette progression nécessaire. Alors, Comment ça peut se dire aujourd'hui, le salut? Eh bien, le salut peut se dire en référence à une culpabilité, par exemple. Vous avez un sentiment de culpabilité, le salut, ce sera le pardon qui est offert. C'est le sentiment de faute développé chez Paul dans l'Épître aux Romains au chapitre 7. Le mal que je ne voudrais pas faire, je le fais, le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas. On a un sentiment de culpabilité, le salut, c'est d'être sauvé de cela pour pouvoir continuer à avoir une vie bonne. Dieu qui nous sauve de la honte de n'être que nous-mêmes, finalement. Ensuite, il pourrait y avoir, et c'était justement l'un des intérêts de la prédestination, je pense, ou la double prédestination, le deuxième aspect, c'est sauver de la mort. Alors, pas sauver de la mort biologique, on voit que tout le monde meurt, même Jésus meurt d'une mort biologique, mais sauver de la peur de la mort. Et justement, Delumeau dit à quel point le Moyen-Âge était le siècle, enfin le siècle, l'époque, où il y avait une terreur de la mort, et toute la question était de savoir comment faire pour se sauver, aller au paradis, pas avoir une mort éternelle. Et la prédestination, finalement, neutralise cela. Et c'est l'idée que notre action, elle doit s'inspirer par rapport à la vie qui est à vivre, et pas par rapport à la mort que nous risquons. Et quand on se trompe d'objectif, en général, on produit de mauvaises choses. C'est la parabole des talents. Si on agit par peur, on enterre son talent au lieu de le faire valoir. Donc la peur de la mort. Ensuite, la troisième question, c'est l'absurde. On peut être sauvé de l'absurde, du sentiment qu'au fond, on n'est rien, enfin, on est broyé par une énorme mécanique. Aujourd'hui, on parlait de la globalisation, etc. Comment marche le salut dans ce cas-là? Par la théologie herméneutique, c'est-à-dire Dieu comme source d'un questionnement qui nous permet de donner du sens à ce que nous vivons. Dieu qui nous met en question, Dieu qui nous appelle, qui nous guide, qui nous oriente, qui nous éclaire aussi. Dieu qui nous permet de nous interroger. Où es-tu, Adam? Adam, où es-tu? Ben voilà, ça c'est le genre d'élément qui favorise le salut de l'absurde. Quatrième point, c'est sauver des aliénations. Alors ça, c'est peut-être plutôt un thème fin 19e, début 20e, mais des aliénations, il y en a encore aujourd'hui. C'est quand on se sent prisonnier d'un système, prisonnier d'une idéologie, prisonnier d'une fatalité, prisonnier, je sais pas, de son patron, etc. L'aliénation, et du coup, la libération va être effectivement la réponse à cela. Je ne peux pas ne pas évoquer le 4 juillet 1776 en Virginie, la déclaration d'indépendance qui se réfère à Dieu comme effort de libération de l'aliénation. Ce qui aliène à l'époque, c'est le roi d'Angleterre. Bien. Cinquième et dernière proposition, sauver de quoi? Ben, sauver de la solitude. Sauver de la solitude. Il y a un rapport de la Fondation de France qui disait, il n'y a pas très longtemps, 2-3 ans, qu'il y avait en France 4 millions de personnes, 10% de moins de 10% de la population, qui n'avaient pas eu plus de 3 contacts directs en un an. Vous imaginez? Pas plus de 3 contacts directs en un an. 4 millions de personnes. Il suffit de faire un peu des visites, etc. Oui, ça, c'est énorme. Hein.
C'est très peu.
Ça veut dire que dans votre année, vous n'avez pas vu plus de 3 personnes différentes en contact direct. C'est-à-dire que Facebook, ça ne marche pas. La télé, ça ne marche pas. La radio, ça ne marche pas, etc.
Contact direct.
3 personnes.
3
personnes.
3 personnes.
3 contacts en termes de personnes. Oui. Pas plus de 3 personnes.
Mais ça peut être plus de 3 moments.
Oui, effectivement. Oui. La personne qui vient vous donner le plateau repas, que vous voyez tous les jours, ça compte comme 1. Voilà. Donc,
il y a la solitude.
Oui. Il y a du vide affectif. Bref. Il peut y avoir un salut qui est finalement ce rachat qui nous intègre dans une fraternité élargie. Vous savez, le premier-né est racheté. Ça veut dire que, en fait, l'humanité appartient à Dieu. Et parce qu'elle appartient à Dieu, elle nous intègre finalement à une communauté. Alors, pour que ça marche, il faut que les gens de la communauté soient un peu responsables. Mais du coup, c'est une fraternité élargie, dotée d'une éthique de la responsabilité. Et là, c'est « qu'as-tu fait de ton frère ?» Bref, Je finis avec cette phrase de Paul, enfin c'est pas une phrase de Paul Tillich, mais c'est une conclusion de Paul Tillich. Hein ? Gunel, je vous distribue le texte, je vous le lirai chez vous. Dieu ne supprime pas le problème, mais nous donne le courage d'y faire face. Disons que ça serait la réponse un peu du protestantisme libéral à la question du salut. Dieu ne supprime pas le problème, mais nous donne le courage d'y faire face. C'était Charles Wagner qui disait « Dieu ne protège pas de la foudre, mais il protège l'homme foudroyé ». Voilà, et pour votre chez vous, vous lirez ce texte d'André Gounel qui propose aussi quelque chose dans ce genre-là. C'est une reprise de Paul Tillich. Si on voulait pas du Paul Tillich, on dirait ça. Ah, je profite du temps de flottement pour, en une phrase, dire que pour le temps du salut, il y a trois réponses. Il y a l'avenir de la foi, c'est le Concile de Trente, les catholiques. Le salut, c'est pour plus tard, après la mort. Il y a le présent de la foi, c'est les luthériens et les existentialistes, en disant, eh bien, Bultmann notamment, hein, c'est toujours un événement aujourd'hui. Voilà, c'est dans l'aujourd'hui que quelque chose se passe. Et puis la réponse réformée, c'est de dire, c'est dans le passé de la foi. Ça a eu lieu, c'est réglé maintenant. On n'en parle plus, on ne se pose même plus la question. Dans le baptême, ça se sent. Le baptême, dans une tradition réformée, c'est... voilà, on atteste que tu étais enfant de Dieu. Dans une théologie plus luthérienne, le baptême fait que l'enfant est adopté comme enfant de Dieu, par exemple. Oh, si je vous lis quand même le Genevois César Malan au 19e. C'est offenser Dieu que de le prier pour un salut qu'il nous affirme avoir accompli. Un peu de provoque pour la fin. Bon, c'est l'heure.
Ceux qui veulent peuvent rester un peu à discuter éventuellement. Est-ce qu'on a la date de la prochaine fois, le sujet de la prochaine fois ?
En haut, on doit avoir tout ça.
On doit avoir tout ça. Ah voilà. Combien ?
11 mai. Les personnages fantastiques.
Les anges, les diables, les choses comme ça.
On va parler de vous, quoi. 11 mai.
Et il y en a une en juin ou pas ?
Alors, je crois. Quoi que c'est pas sûr, non.
Non, ça s'arrête. Hein. Ça reprendra en octobre, après. Oui. Non, mais justement. Moi non plus.
Non, mais on peut l'utiliser comme élément pédagogique pour exprimer des choses.
Donc, bon retour à vous tous. Hein. Merci.